Accent d'Europe, Alexis Bédu.
Bonjour à tous. Les manifestations sont-elles encore efficaces ? Face à la répression policière et aux interdictions de rassemblement, les modes de contestation évoluent partout en Europe. En Russie, certains manifestants ont été lourdement condamnés début septembre. Ils protestaient à Moscou contre le refus des autorités de valider des candidats indépendants à l'élection des députés. Depuis le scrutin, la mobilisation se prolonge, mais sous une autre forme. Chaque vendredi soir, depuis un mois et demi, militants et anonymes se retrouvent à proximité des stations de métro pour une action silencieuse. Reportage à Moscou d'Étienne Bouche.
Devant les portes de la station Akademicheskaya, des moscovites chaudement vêtus se croisent dans un va-et-vient permanent. Beaucoup ont le nez penché vers leur téléphone, mais quelques-uns ralentissent le pas devant Vassili. Immobile, le trentenaire brandit une pancarte. Nous sommes debout pendant que d'autres sont assis. Autrement dit, pendant que d'autres sont derrière les barreaux. Ce député du conseil de quartier fait ce qu'on appelle un piquet.
J'essaie de regarder les passants dans les yeux, ce qui est perçu comme quelque chose de très étrange à Moscou. Les gens ici ont peur les uns des autres. Ils sont comme des animaux sauvages qui se retrouveraient face à face dans le désert ou dans la forêt. Ils se regardent avec prudence et perçoivent ce contact visuel comme une menace. Avec mon sourire, j'essaie de les attendrir et de leur faire comprendre que nous ne sommes pas des ennemis.
En Russie, le piquet individuel est l'unique moyen d'exprimer publiquement une opinion politique sans autorisation préalable des autorités. Chaque vendredi depuis mi-octobre, des citoyens viennent brandir une pancarte qu'ils se transmettent à tour de rôle. Tatiana sortait de l'épicerie quand elle a décidé de prendre le relais. L'une de ses connaissances a été condamnée à 4 ans de prison pour infraction répétée aux règles qui encadrent les manifestations.
Quand des forces de l'ordre suréquipées s'en prennent à des personnes non armées, forcément ces personnes résistent. Alors on les arrête au motif qu'elles ont opposé de la résistance, qu'elles sont contre le pouvoir. En les condamnant à 3, 4, 5 années de prison, on sabote la vie de ces jeunes qui n'ont fait qu'exprimer leur opinion.
Les participants se postent volontairement devant des stations de métro éloignées du centre-ville. La mobilisation a pour objectif d'attirer l'attention des moscovites ordinaires. Tatiana a bien conscience que le défi est considérable. Une grande partie de la population ne s'informe pas ou ne consulte que la télévision publique, tandis que beaucoup sont à Moscou pour des raisons économiques et n'y vivent souvent que temporairement. Tant qu'il ne concerne pas un proche, le sort des prisonniers politiques est une réalité bien abstraite. Cette mobilisation du vendredi est soutenue par le parti Yabloko. Au siège de cette formation libérale, Valérie, un militant de 20 ans, se souvient de son arrestation fin juillet.
On m'a arrêté sur la place Troubnaïa vers 20h. J'ai passé une journée en détention sans me douter qu'on avait déjà engagé des poursuites contre moi. 2 semaines plus tard, au motif que j'avais jeté une bouteille en plastique, on est venu perquisitionner à mon domicile. Le lendemain, j'étais au tribunal où l'on m'a condamné à 2 mois de détention provisoire.
À côté de Valérie, Igor Yakovlev est l'attaché de presse du parti. Il souligne le fait que le pouvoir se sert abusivement de 2 articles de loi. L'un pénalisant les émeutes, l'autre les violences physiques à l'égard des dépositaires de l'autorité publique. À la suite des manifestations, toutes les personnes arrêtées n'ont pas été jugées de la même manière. Certaines poursuites ont été abandonnées, tandis que d'autres ont été transformées en lourdes peines. Un signe que le système n'a pas su comment réagir à ce mouvement de contestation inattendu. Pour Igor Yakovlev, les condamnations à de la prison ferme sont un message envoyé à la population.
La politique, libre, au grand jour. Dans ce système de pouvoir vertical, les citoyens ordinaires n'ont aucune possibilité de s'impliquer. Du coup, ils ne participent pas. L'autre problème, c'est que n'importe quel engagement politique, selon la logique du pouvoir, doit inspirer la peur des conséquences que cet engagement implique. Ces condamnations moscovites ne sont que la partie immergée de l'iceberg, car tout le monde s'intéresse à ce qui se passe dans la capitale, mais dans le reste du pays, la situation est bien pire.
Cette contestation silencieuse pourrait s'endormir avec l'arrivée de l'hiver, mais elle reflète en tout cas une aspiration à une société plus juste. Une étude du Centre Levada réalisée le mois dernier confirme un intérêt croissant des Russes pour les droits individuels. avec deux indicateurs en forte hausse, la liberté d'expression et le droit à une justice équitable.
En Italie, comment lutter contre la Ligue du Nord ? La gauche italienne n'arrive pas à battre la puissante formation de Matteo Salvini dans les urnes. Alors c'est dans la rue que ces citoyens affichent leur ras-le-bol. Ils se font appeler les sardines. Après s'être rassemblés à Bologne contre le meeting du leader de l'extrême droite, ils étaient environ 8000 à Parme lundi soir. Reportage de Franceline Beretti.
Le rendez-vous était donné à 19h. Pour les retardataires, impossible d'apercevoir la cathédrale de Parme. La foule compacte et ses pancartes de toutes les couleurs en forme de poisson empêchent l'accès à la place. Personne ne se souvient avoir vu autant de monde dans la ville. Teresa a 19 ans, elle est venue avec son ami Christian.
Comme les sardines qui nageaient à côté, en groupe, en masse, nous aussi ce soir sur cette place, on était écrasés par le nombre, comme dans un grand banc de poissons. On ne pouvait pas accéder à la place, toutes les rues autour étaient complètement remplies de monde. Les gens continuaient à chercher à rejoindre la cathédrale. Nous, on est restés bloqués derrière le baptistère, on ne pouvait plus avancer tellement il y avait de monde. Et heureusement...
C'était plein comme à Bologne, Modène, Reggio, Imola. L'Émilie-Romagne réagit bien.
Le mouvement des sardines est en effet parti d'Émilie-Romagne, au nord de l'Italie. Cette région est traditionnellement de gauche, elle est dirigée par le Parti démocrate, et le 26 janvier prochain, elle vote pour se choisir un nouveau président. Alors la Ligue de Matteo Salvini a sorti la machine de guerre pour conquérir cette terre symbolique. C'est un pari. La région est bien gouvernée, le taux de chômage est faible, le système sanitaire est réputé. Le chef de l'extrême droite donne tout. Le soir de son meeting à Bologne, il y a 2 semaines, 4 jeunes lancent un appel sur les réseaux sociaux pour s'opposer à sa présence. Ils réunissent 15 000 personnes. Depuis, plusieurs villes ont suivi cet exemple. À Parme, Salvo n'en peut plus. Ce trentenaire l'a écrit sur sa grosse sardine en papier jaune.
On assiste aujourd'hui à une dérive médiatique qui concerne tout le pays. Des messages de haine, racistes, xénophobes. Ils viennent de l'extrême droite, de Salvini et même de la droite classique. Notre droite n'a plus rien à voir avec celle qui peut exister dans d'autres pays d'Europe. On a tous à y perdre. C'est une droite très dangereuse, qui exploite les peurs pour obtenir toujours plus de votes. Elle pollue le reste du pays.
L'Émilie-Romagne est la première région à dire non aussi massivement à l'extrême droite. Mais le message est repris dans toute l'Italie. Les sardines ont nagé jusqu'à la Sicile, avec, à chaque fois, des milliers de personnes sur les places. Au début, Matteo Salvini n'a pas réagi, malgré sa grande présence sur les réseaux sociaux. Puis il a ironisé. Et maintenant, le chef de l'extrême droite italienne appelle ses partisans à poster des photos de chats mangeant des sardines. Il y a 3 jours, la contre-offensive a été encore plus loin. La page Facebook des sardines a été bloquée. Salvo est amer.
Les algorithmes n'ont clairement pas de conscience. Le jugement d'un être humain reste encore important. Et le fait que les fans de Salvini s'attaquent à la page des sardines, ça veut dire qu'on signifie quelque chose pour eux, qu'on est dangereux pour eux. Et c'est clair que si nous, à gauche, on avait signalé les posts xénophobes de Salvini, on aurait pu faire la même chose. De ce point de vue, on a encore beaucoup à apprendre.
Et maintenant, beaucoup de ces manifestants attendent un réveil de la gauche. Certains n'attendent plus rien, trop déçus. Marta, elle, estime que la base a fait sa part.
Maintenant, ce serait bien que cette mobilisation devienne quelque chose de politique, un nouveau mouvement, une nouvelle forme, qui aille dans la direction du changement. On a besoin qu'en haut, quelqu'un recueille cette énergie. Bon, je ne m'attends pas non plus à ce que ça arrive comme ça.
Comment transformer dans les urnes ces rassemblements populaires ? Personne n'a la réponse. Dans 2 mois, l'élection en Émilie-Romagne sera décisive pour mesurer l'influence réelle de ces sardines.
Accent d'Europe vous emmène désormais en Turquie où depuis la révolte de 2013, la répression des autorités est particulièrement intense. Le droit de manifester n'existe plus que sur le papier. Les rues et places du pays qui vivaient autrefois au rythme des protestations en tout genre sont peu à peu devenues silencieuses. Le pouvoir interdit presque toutes les manifestations et réprime ceux qui défient les interdictions. À Istanbul, les précisions d'Anne Andlauer.
À la dernière minute, ce 25 novembre, la préfecture d'Istanbul a finalement autorisé des centaines de Turcs à défiler en centre-ville à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'était inespéré car, dans un premier temps, la marche avait été interdite, comme celle de l'an dernier, qui s'était terminée aussi vite qu'elle avait commencé dans un épais nuage de gaz lacrymogène. C'était inespéré aussi car, ces dernières années, les Turcs ont quasiment perdu leur droit de se rassembler dans l'espace public. L'époque semble bien loin où les manifestants défilaient presque chaque jour sur les grandes artères du pays. C'était il y a quelques années pourtant. Certaines marches emblématiques, comme la Gay Pride, la marche pour les droits des femmes le 8 mars ou la commémoration du génocide arménien le 24 avril, sont désormais bannies. On ne compte plus les rassemblements réprimés, les défilés mornés, les interdictions totales de manifester décrétées pour 15 jours ou plus dans certaines provinces jugées à risque. Il suffit en fait que trois personnes se regroupent derrière une pancarte pour que des policiers en civil leur tombent dessus et les embarquent. Le silence des places et des avenues turques est parlant à plus d'un titre. Il dit l'intolérance du pouvoir à l'égard de toutes les formes d'opposition. Il dit sa peur de tout ce qui pourrait ressembler à une foule de Turcs mécontents. Le mouvement de Gezi a été un tournant à ce titre. À l'été 2013, des centaines de milliers de personnes avaient protesté dans le pays contre le pouvoir autoritaire de Recep Tayyip Erdogan, l'actuel président. La place Taksim d'Istanbul, centre névralgique de Gezi et des mouvements sociaux des dernières décennies, est devenue depuis une place interdite. Ce silence dit enfin la peur et peut-être la lassitude d'une partie des Turcs que les arrestations massives des dernières années font réfléchir à deux fois avant de battre le pavé pour défendre leurs droits.
En Grèce, la manifestation fait quasiment partie de l'ADN de la capitale Athènes. Le pays a connu une cinquantaine de grèves générales depuis 2010, dans un climat de crise économique et d'austérité imposée au pays. Aujourd'hui, les manifestations persistent, mais elles sont beaucoup moins suivies. Elles se concentrent dans le quartier d'Exarchia, un quartier populaire en cours de gentrification que les autorités disent vouloir nettoyer. Face à elles, la résistance des habitants s'organise. À Athènes, Joël Brunner.
Est-ce un crime d'habiter Exarchia ? C'est la question que se pose ces derniers temps une partie des habitants de ce quartier populaire d'Athènes en cours de gentrification. C'est aussi le mot d'ordre qui a poussé plusieurs dizaines d'entre eux dans la rue au début du mois pour protester en chanson contre l'évolution de leur quartier. En cause notamment une incessante présence policière. Les forces de l'ordre étaient déjà postées à l'entrée du quartier sous le gouvernement précédent, mais ces derniers mois, leur présence statique permanente a été rapprochée de son centre nerveux, la place des Archéones. La droite grecque, de retour aux affaires depuis l'été, assure en effet vouloir nettoyer Exarchia, s'appuyant en partie sur le fait que le quartier est touché par le trafic de drogue. Le déploiement sécuritaire donne pourtant à une partie des résidents l'impression pure et simple d'être considérés comme des criminels. Proche du centre-ville, le quartier suscite des opinions très contradictoires. Avec ses murs recouverts d'innombrables graffitis, se chevauchant les uns les autres, Exarchia fait figure pour certains de verrues sur le visage athénien. Pour d'autres, ce bastion des milieux anarchistes et d'extrême gauche, qui abrite aussi plusieurs squats de demandeurs d'asile, est un symbole de liberté et de contestation, une forme de mythe libertaire même. Il y a quelques jours, le pouvoir a posé un ultimatum pour l'évacuation de l'ensemble des squats d'ici au 5 décembre. Avec un risque de souffler sur les braises. Le 6 décembre, date anniversaire de la mort à Exarchia d'un adolescent tué par un policier en 2008, est déjà une journée de violence traditionnelle entre frondeurs et policiers dans ce secteur. Au final, les résidents qui manifestent s'alarment du changement d'identité de leur quartier. Un quartier plus ou moins sommé de s'embourgeoiser, au détriment de son âme contestatrice traditionnelle.
Et comme tous les mercredis, notre chronique En un mot nous révèle les secrets de certaines expressions d'Europe. Cette semaine, allons en Irlande et intéressons-nous au crack. Qu'est-ce que le crack ? Un art de vie à l'irlandaise, un concept, une vraie fierté nationale pour les Irlandais en tout cas. Emeline Vin a enquêté à Dublin.
L'une des premières expressions qu'on apprend en mettant le pied en Irlande, c'est « What's the crack ?»
What's the crack, c'est comment tu vas, comment tu te sens.
C'est une autre manière de demander quoi de neuf. Vous allez voir votre grand-mère, vous dites what's the crack, et elle vous raconte ses histoires.
On l'utilise tous les jours. Le crack a plein de définitions différentes. C'est pour demander où on peut s'amuser, ce qu'il y a de neuf.
Où est le crack veut ainsi dire où se passe la fête. Car le crack est profondément lié à la culture irlandaise. Il a même un lieu de prédilection, les Irish pubs, évidemment. Paul Danish, le patron du Old Mill dans le quartier touristique de Temple Bar, est expert en la matière.
Le crack, en gros, c'est passer un bon moment autour d'un verre avec des amis. Si vous profitez du crack, vous êtes dans un bar avec des potes, avec un petit verre. Ou un gros verre, c'est vous qui voyez, vous passez du bon temps. Ici, nous les Irlandais, on a le crack naturellement. Quand les gens viennent ici, on n'arrive pas à expliquer vraiment. Il faut l'expérimenter soi-même.
Pour du crack réussi, voici la recette du chef.
De la musique irlandaise, de la boisson irlandaise, des gens irlandais. Le meilleur truc au monde. Le crack, ça ne s'exporte pas.
Pour l'alcool préféré de la Guinness, emblème national, avec modération, évidemment. De la musique irlandaise, de la bière, en fait le crack, c'est un peu la marque Made in Ireland. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, il suffit de passer la porte d'un magasin de souvenirs comme il en existe à chaque coin de rue.
Alors, on a un magnet avec l'Irish crack, on a des porte-clés, on a des chaussettes, des t-shirts avec le crack dessus.
Craig, cheveux roux, bonne humeur communicative, travaille dans l'une de ces boutiques licenciées dont les enseignes vert vif s'affichent partout en Irlande. Pour lui, la maîtrise du crack, c'est presque devenu une ligne sur son CV.
On l'utilise comme un gimmick, comme un slogan. Nous en particulier, dans l'industrie touristique, on parle de crack constamment, surtout quand on s'adresse aux touristes. Quand ils demandent quel endroit il faut voir, quelles sont les bonnes adresses, on répond « ce resto, bon crack ». De nombreuses entreprises du tourisme l'utilisent comme slogan, mais ça ne concerne pas que le tourisme. Toutes les entreprises irlandaises, en fait, l'utilisent sur leur site.
Et c'est vrai que le crack est devenu un véritable argument touristique. Par exemple, sur le site de la compagnie aérienne Aer Lingus, prenez part au crack pendant la Saint-Patrick. L'organisme visitedublin.com propose même des visites guidées du crack à travers la ville. Résultat, les touristes connaissent le crack avant même de découvrir l'Irlande.
Le mot existe depuis des années, mais ça fait seulement 10 ans qu'il a pris cette signification. Même si ce n'est pas l'intention de départ, aujourd'hui c'est devenu un peu artificiel. Les touristes en ont entendu parler, l'industrie du tourisme en fait des tonnes. Et maintenant, quiconque se rend en Irlande veut expérimenter le crack.
Une création made in Irlande, le crack ? Eh bien, en fait, non, pas vraiment. Greg Toner enseigne la langue irlandaise et sa linguistique à la Queen University de Belfast. Il a même créé un dictionnaire du gaélique ancien et le crack n'y apparaît pas.
Ça vient du nord de l'Angleterre et d'Écosse où crack veut dire conversation, le fait que plusieurs personnes discutent ensemble. Le mot apparaît en Irlande au début du XXe siècle. On pourrait croire que les Irlandais sont les rois du crack, les rois du divertissement, mais en réalité, beaucoup de mots qui ont trait à l'amusement viennent de l'anglais.
En anglais, crack s'écrit C-R-A-C-K, en irlandais C-R-A-I-C. Régulièrement, des éditorialistes prennent la plume dans les tabloïds irlandais pour s'insurger qu'un mot emprunté aux voisins britanniques suscite autant de fierté nationale. Greg Toner n'est cependant pas tout à fait convaincu par l'argument de la stratégie touristique prise au détour des années 90.
Oui, il y a un changement d'image, mais il y a aussi un changement de sens, et c'est pour ça qu'on a changé l'écriture. En anglais, le crack, c'est juste la conversation, la discussion, tandis qu'en irlandais, c'est vraiment le sentiment que vous avez quand vous passez un bon moment entre amis.
La preuve, selon lui, que le mot s'est enraciné dans la langue et la culture irlandaise. Tous les Irlandais, quel que soit leur âge, savent quoi répondre à la question « What's the crack ?»
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe. Nous sommes également sur les réseaux sociaux. À demain !